avez le pied au niveau de la chaussure. On reste dans le cadre d'une finale, je n'en veux plus. C'est clair ?
Voilà. Non, je n'ai pas touché.
Ça est déjà de gauche.
Non.
Salut tout le monde, c'est Abdallah et vous écoutez Banquette, votre podcast foot, culture et société. Deux semaines après l'épisode sur le 11 de légende du PSG, on reste dans le thème avec l'invité du jour, Clément Chantôme, qui est un pur enfant du club. De la Seine-et-Marne où il a grandi, au titre de champion de France avec son club de cœur et formateur en 2013, il a absolument tout connu avec le PSG, les bons moments comme les très mauvais. Le milieu de terrain nous raconte donc tout ça en détail. Il parle aussi du Red Star, club pour lequel il joue aujourd'hui, et du football qu'il aime, celui qui va vers l'avant. Tout un programme donc que je vous laisse découvrir dans ce nouvel épisode de Banquette. Salut Clément.
Salut.
Comment ça va ?
Très bien, très bien.
Oh, tu sors de l'entraînement là ?
Ouais.
L'entraînement avec le Red Star, ça va ? Pas trop fatigué ?
Non, ça va, ça va.
Tranquille, tranquille. Bon, j'espère que t'as assez d'énergie pour affronter une petite heure, pas d'interview, mais de discussion, tranquillement, dans Banquette. Et j'ai envie de commencer par un peu les débuts, en fait, le commencement de ta vie. Donc, tu es né dans Lyon, mais tu as grandi en région parisienne dans le 77. Première question, c'est est-ce que ça va ? Est-ce que tu manquais de rien ? 77, c'est un peu loin. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc, est-ce que tu as passé une bonne enfance ? C'est ça la question.
Ouais, très bonne. Après, je suis juste né dans Lyon. Hein. J'ai pas vécu là-bas. Mm-hmm. Donc, mes parents, on a toujours habité à Savigny-le-Temple,
ouais.
En Seine-et-Marne. Et ouais, non, j'ai une enfance heureuse.
Ça va ?
Ouais.
On te faisait des vannes quand tu étais au centre de formation sur 77, on te disait quoi ?
Ouais, ça, direct, ouais, bah, genre, c'est où ? C'est quoi ce club ? Parce qu'en général, à chaque mec, on annonce notre club quand on arrive.
Ouais.
En général, les mecs connaissaient pas trop, donc c'était un peu la vanne, mais bon, après ils m'ont laissé tranquille assez rapidement.
Ouais. Pourquoi ? Est-ce que tu jouais bien ou juste parce qu'en fait, ça, au bout d'un mois, c'est bon, c'est fatigué ?
Non, parce qu'après, une fois qu'on... ouais, une fois que tu t'es rencontré avec les mecs, après, on se vanne sur autre chose.
Mm-hmm. Par exemple, on se vanne sur quoi ? T'as 12 ans, je crois, quand t'arrives au centre de formation du PSG. 12...
En fait, c'est la première année qu'ils ouvraient la préformation au PSG. Donc, on était en dortoir à Conflans.
Mm-hmm.
Donc, on vivait vraiment 24 heures sur 24 ensemble. Donc, on se vannait sur les styles vestimentaires, tous ces trucs-là.
C'était quoi ton style ? Est-ce que tu mettais les... Je sais pas, un truc qui me vient en tête, tu sais, t'avais les joggings avec des inscriptions chinoises là. Il y a eu ça une époque et cette mode là.
Non, moi j'ai pas mis ça.
Non.
Nous c'était les joggings avec les ficelles au bout là. Tu sais,
oui, sur les chevilles. Oui, c'est vrai.
Nous,
c'était
ça là.
Ouais, ouais. Tu mettais un petit peu en haut de la chaussette et tout. Ça. Chaussette blanche de préférence.
Ah ouais.
Ok, je vois qu'on est raccord là-dessus. Donc c'est top. Et il était comment Clément Chantôme quand il était petit ? T'étais comment ? Avant d'arriver au centre de formation, c'était quoi tes hobbies ? Comment t'étais exactement ?
Après, tu sais, j'étais vraiment jeune avant d'entrer au centre. Donc, c'était foot, mm-hmm. tout le temps. Pour te dire la vérité, ouais, c'était vraiment que ça.
Que le foot, ouais.
Ouais, on n'a pas une vie intéressante quand on est jeune. Hein. On joue au foot, on rentre à la maison, on fait nos devoirs et puis on va à l'école. Hein.
Ouais, c'était quoi les spots ? C'était où les spots où tu jouais au foot justement ? Est-ce que c'était à l'école ? Dans la cour de récré, où tu avais un terrain en particulier.
Ouais, terrain du quartier.
Ouais.
Wow.
C'était la guerre.
Ouais, tu jouais de tous les temps. Neige, pluie, terrain en sable.
Mm-hmm.
À l'ancienne.
Et comment tu te retrouves à intégrer après un club, enfin le club de ta ville ?
En fait, moi, j'étais à le club où mes parents habitaient, Savigny-le-Temple.
Mm-hmm.
Et en fait, ça se passait pas très bien. Parce que j'avais un fort caractère et ça se passait pas très bien avec l'entraîneur. Après, c'est pas comme quand t'es pro. Hein, mais bon, ça se passait pas très bien. Et du coup, j'ai demandé à mes parents de changer de club parce que je me sentais pas bien. Du coup, j'ai trouvé un club, Le Mets-sur-Seine.
Toujours dans le 7-7.
Exactement, à côté de Melun. Pour rester proche de chez mes parents.
Mmh.
Et en fait, c'était un club qui était partenaire du Paris Saint-Germain. Du coup, en fait, j'ai fait une saison, c'est bien passé. Puis, ils m'ont envoyé en détection. Et de là, je suis allé au PSG.
C'est toi qui as choisi le club du Mets ou c'est...
Non, en fait, il y avait un ami de mes parents qui jouait là-bas, en vétéran. Il connaissait bien les éducateurs. Il m'a dit que ce serait bien qu'il aille là-bas. On a fait un essai, puis c'est bien passé. Puis, ça s'est fait naturellement.
Ouais, ouais. Donc, du coup, tu intègres le PSG après. Mais avant d'évoquer justement le Paris Saint-Germain, toujours pour rester un peu dans l'enfance, c'était qui tes idoles quand tu étais plus jeune, quand tu commençais à jouer au foot? C'était qui les joueurs que tu admirais?
Après, ça va paraître un peu bizarre, mais c'était Platini.
C'est vrai que oui.
Mais après, c'était pas mon inspiration première. C'est parce que mon père avait des cassettes de lui et tout ça. Donc, on regardait forcément ce que le père regardait.
Ouais.
Donc, ouais, c'était Platini. Mais après, ça a été vite Zidane, Ronaldo, tous ces joueurs-là à l'époque qui marchaient bien.
Et c'est des mecs à qui tu voulais ressembler, ça? Tu voulais faire la même chose qu'eux? Parce que tu n'as pas joué au même poste que
non,
Zidane?
Non, j'ai jamais été dans le fait Ronaldo. De copier un joueur. Non, c'était juste que moi, je suis quelqu'un qui aime le beau jeu. Donc, en fait, j'étais attiré par les joueurs qui sont créatifs. Quoi.
Mm-hmm. Et c'est quoi le truc qui te plaisait plus particulièrement, disons, chez Zidane? C'est quoi le...
C'est son élégance.
Ouais, l'élégance.
Ouais, quand il joue, ça te paraissait facile. En fait, tu disais que tu pouvais le refaire, mais en fait, tu as vite compris que c'était compliqué.
On dit souvent de Zidane que son meilleur match... C'est peut-être le France-Brésil en 2006, où en gros il résiste à la meilleure partie de sa carrière. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ou tu peux nous sortir un autre match?
Ouais, c'est compliqué. Les gens retiennent souvent son but contre Leverkusen en finale de Ligue des Champions.
La reprise de
volée. Mais après, le match, en fait, c'est tout ce qu'il y a avant et après. C'est que on sait que c'est sa dernière Coupe du Monde. Après, on sait la finalité. Et surtout, c'est qu'il joue blessé ce match-là.
Contre le Brésil?
Ouais, il est blessé. Ouais, quand tu regardes. Un reportage sur lui, il est blessé, Zidane. Et quand tu vois tout ce qu'il leur fait, c'est incroyable.
Ouais, c'est du sale un peu. Et est-ce que tu te rappelles du 12 juillet 98?
Ouais.
T'étais où?
J'étais en stage à Nemours, stage de foot encore.
Ouais.
Ouais, j'étais un peu fâché d'ailleurs d'être en stage à ce moment-là.
Pourquoi?
Parce que nous, une fois que le match est terminé, on est parti se coucher.
Donc même pas de fête, rien?
Ah, rien.
Ah ouais, non, c'est triste.
Ouais, c'est triste. Ouais.
Ah non, franchement, là, je suis triste pour toi.
Ouais, moi, ouais, j'étais jeune, j'avais 11 ans, mais bon.
Bon, du coup, tu t'es rattrapé en 2018 un peu?
Ouais, non, pas trop, non.
Même pas? Ne dis pas que t'as encore un stage.
C'est différent
de
parce que tu as joué avec certains mecs, du coup, c'est pas pareil. C'est...
Ouais.
Bah, enfin, t'es heureux, mais c'est pas. C'est plus intérieur, quoi.
C'est-à-dire, enfin, tu. T'es pas allé sur les champs?
Ah, non. Non, c'est pas mon truc.
Moi. C'est pas ton truc. ce que je peux comprendre, hein, de toute façon, je peux comprendre. Et je suppose que le club que tu supportais quand tu étais petit, c'était le Paris Saint-Germain?
Ouais, toujours. Ouais.
Toujours.
Ça a toujours été le club.
Ça a toujours été le PSG.
Ouais, ça l'est encore. Hein.
Ça l'est encore à la vie,
ouais.
À la mort.
Ouais.
Ouais. Et c'était qui tes idoles au PSG, du coup, à l'époque?
Quand nous, on était jeunes, tu vois, quand on était au centre, c'était un peu Anelka, tout ça. C'est les mecs qui commençaient. T'avais Anelka, t'avais Okocha. T'avais des joueurs comme ça.
Ouais.
Après, t'as pas de joueurs qui sont restés longtemps, tu vois. Quand moi j'étais petit, par exemple, j'ai joué avec Pauleta, c'était incroyable.
Mm-hmm, on va en parler. Mm. Pauleta, c'est un de mes pires cauchemars en tant que supporter marseillais. Donc, je peux te dire que.
Ah, t'es supporter de Marseille?
Ouais, je suis supporter de l'OM, ouais.
Ah, voilà. Merde.
Ah, mais non, faut pas dire ça. T'inquiète, ça va bien se passer. Ouais. En plus, je pense que t'as plus à dire pour me chambrer que moi, l'inverse, je pense, hein, en tout cas. Et donc, ouais, t'as dit le PSG, donc tu rentres là-bas à
12 ans.
À 12 ans, c'est ça? C'est le plus beau jour du monde quand t'intègres le club, enfin le centre de pré-formation.
Ouais, franchement, ouais, c'est un souvenir qui reste gravé, quoi.
Ça s'est passé comment? En gros, c'est tu fais la détection et après, en fait, qui t'appelle
C'était le recruteur, il s'appelait Jean-Pierre De Glani, qui est décédé maintenant. Mais il appelle tes parents. Au début, tes parents pensent que c'est une blague. Et après, le mec, il vient plusieurs fois chez toi, donc tu vois que c'est du concret. Ouais, donc ça fait bizarre, en fait.
Donc, pour toi, c'était... comment dire? Est-ce que tu avais pensé à intégrer le PSG, enfin, intégrer le centre de formation du PSG quand tu as commencé vraiment à
jouer? Non, à mon âge, franchement, je pensais... tu te fais plaisir, quoi. Ouais. Tu joues vraiment pour te faire plaisir, tu ne penses pas à tout ça. Donc ouais, c'était une belle surprise.
Ouais, ouais. Et du coup, comment se passent tes premières années au centre de préformation?
Moi, c'est mes meilleurs souvenirs, hein, franchement.
Sérieux?
Ouais, c'est super bien passé. On avait une bonne bande de potes. Tout se passait bien. On s'entendait tous bien. Tu sais, souvent, quand t'es petit comme ça, c'est pas évident de quitter le cocon familial.
Effectivement, ouais.
Mais moi, ça m'a fait du bien. Parce que j'étais un peu turbulent. Donc ça m'a fait du bien, ça m'a canalisé. Mmh. Quand je rentrais le week-end, j'étais content de voir mes parents. Enfin, donc, c'est super bien passé. Et puis, Et puis, puis voilà, donc c'est des bons souvenirs.
Ouais, quand tu dis c'est la meilleure, tes meilleurs souvenirs, c'est toute carrière, dans toute ta carrière ou...
Ouais, après, forcément, il y a toujours le titre de champion de France avec Paris, parce que c'est l'aboutissement. Tu te dis, tu as été formé là, et puis en pro, tu y arrives, mais c'est les meilleurs moments de foot, quoi. C'est,
ouais.
Tu progresses avec des mecs, tu changes de catégorie, d'entraîneur, enfin, tu vis des choses exceptionnelles, tu fais des tournois, tu vas à droite à gauche, tu t'apprends à... Enfin, t'as pas l'habitude quand tu viens de ton petit club, toi, tu fais un tournoi, c'est la ville d'à côté.
Ouais.
Là, tu vas, on allait au Portugal, on a fait des trucs super.
Et t'as encore des contacts avec ces gars avec qui t'étais, avec qui
très
t'as
peu,
grandi ?
Très peu.
Très peu ?
Ouais, très peu. Après, c'est dommage, mais après, c'est le milieu du foot qui est un peu comme ça. C'est, chacun fait sa route et à la fin, t'es proche de peu de personnes.
Ouais, c'est...
Mais après, quand je les revois, je suis content. Hein. Quand on se revoit, on est content. On se rappelle les moments qu'on a vécu au centre.
Mais c'est pas un peu triste, justement, de passer toutes ces années avec des personnes, de grandir vraiment avec ces personnes-là et se dire, enfin, de constater qu'au bout d'un moment, bah, en fait, il n'y a plus rien, quoi. C'est... Chacun parle de son côté, il ne reste même pas une ou deux amitiés.
Ouais, c'est triste.
Ouais, c'est triste.
Ouais, mais c'est le foot qui est comme ça.
Ouais.
Malheureusement, ouais. C'est les mauvais côtés un peu du football.
Mm-hmm.
C'est quand chacun réussit ou devient pro, chacun fait un peu sa vie. Et puis après, ils ont des enfants, chacun est marié, enfin, bah, droite à gauche. C'est dur de se retrouver.
Ouais, c'est un constat que je fais depuis que j'anime Banquette, à force de recevoir plusieurs anciens joueurs. Et ils sont plusieurs à dire que voilà, même dans un vestiaire, en fait, il y a pas forcément toujours cette notion, en gros, de fraternité, de solidarité entre joueurs. Il y en a qui font vraiment chacun leur vie de leur côté, et puis voilà, ils se retrouvent juste pour l'entraînement et jouer des matchs de foot ensemble.
Tu partages pas grand chose en dehors.
Ouais.
Tu viens faire un métier, quoi.
Et je voulais te parler d'une anecdote que moi j'ai connue par rapport à toi. Donc la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était sur MSN. Je sais pas si tu te rappelles à l'épooque. Les Wiz, tout ça, là, quand on discutait là-dessus. Et il y avait un type qui était dans ma classe en seconde, un gros fan du PSG, et qui était absolument fan de toi. Vraiment, c'était la première fois que j'en ai parlé de toi. Il avait mis ta photo en photo de profil, son statut. Donc, son nom, c'était Étoile, Clément Chantôme Étoile, avec des trucs, plein de trucs PSG, des bleus, du rouge et tout partout. Et je vais le voir, je me dis, mais c'est qui ce type ? Il me dit, mais lui, tu verras, c'est le futur du Paris Saint-Germain, c'est le meilleur, il va rester pendant 10 ans au club. Et c'est la première fois que j'ai eu un contact, entre guillemets, avec toi. C'était grâce à ce type-là, Julien, que je salue. Est-ce que toi, tu avais conscience des attentes autour de toi quand tu as commencé un peu à monter les échelons du club ? Est-ce qu'on te parlait, on te disait que voilà, tu allais être un peu le nouveau visage du PSG ?
En fait, je l'ai été très tard parce que j'ai eu... Parce qu'après la préformation, tu rentres au centre de formation. J'ai grandi d'un coup, donc j'ai pris beaucoup de taille et donc j'ai eu des problèmes physiques. Après, j'ai eu un accident de la route et du coup, j'ai éclos plus tard. Mon papa qui a des problèmes de santé, et c'est tout ce truc-là qui m'a fait prendre conscience mon rêve, c'était d'être joueur pro. Et à ce moment-là, c'est là que j'ai vraiment franchi les paliers et qu'après, les gens ont commencé à me connaître et j'ai été attendu. Mais j'ai cloué un peu plus tard que certains.
Mm-hmm.
Mais une fois que j'étais parti, après j'ai progressé très vite. Ouais,
ouais, et sans ces déclics-là là, que tu viens de citer, tu penses que tu n'aurais pas eu l'implication qu'il fallait pour devenir...
C'est difficile de te répondre parce que tu peux pas...
Ouais,
comme je l'ai vécu comme ça, je peux pas. Mais c'est sûr que sans doute, j'aurais mis peut-être plus de temps.
Mm-hmm.
Peut-être, ouais. Parce qu'à cette époque-là, j'étais un peu pas dans la lune, mais tu profites, tu es au centre, tout se passe bien, tu as le confort. Donc, tu te rends pas bien compte que ça va vite, quoi.
Ouais, ouais. Et quand tu intègres vraiment le groupe professionnel, tu te rappelles quand c'était exactement ?
Bah en fait, j'ai fait avec Laurent Fournier, je l'avais intégré un peu. J'étais souvent aux entraînements, donc j'avais 17 ans. Et après, je l'ai vraiment intégré au quotidien. C'était avec Guy Lacombe, c'était à la préparation. C'était 2005 ou 2006, je crois.
C'était Guy Lacombe, il fait quoi ? Deux saisons ? Une ou deux saisons, je ne sais plus.
Il prend en cours en janvier,
ouais,
il remplace Fournier.
C'est ça, ouais.
Et après, il gagne la Coupe de France contre Marseille.
Bah oui, je m'en rappelle.
Bah là, j'étais avec eux déjà, avec le groupe.
Ouais, bon, on a eu Vikash Dorasso il y a quelques semaines. Là, il nous parlait de, il parlait de son but là, qui marque. Ouais, ouais.
Ouais. Il a mis que ce but à Paris.
C'est ça, ouais. Il a mis que ça, ouais.
Ouais. Et il est viré le janvier d'après.
Ouais.
En janvier d'après.
Et donc, tu intègres le groupe. Tu vois Paoletta, entre autres. Tu es dans quel état d'esprit à ce moment-là, ouais?
Bah, je me faisais tout petit. Parce qu'en fait, moi, ce qui était compliqué, c'est quand j'ai intégré le groupe pro, j'étais tout seul.
Ah, donc, il n'y avait personne d'autre du centre de formation.
Ouais, j'avais pas d'autres jeunes. Du coup, c'est compliqué d'aller parler avec des mecs comme Paoletta. Il y avait Yepes. Tu avais des joueurs qui étaient anciens, entre guillemets, et donc qui avaient une certaine expérience. Et du coup, je me faisais tout petit. Je faisais mes séances et après, je me mettais dans mon coin. Je...
Et en plus, tu arrives dans une période où le PSG n'est pas forcément au top. C'est pas les meilleures années du PSG.
Non, non.
Malgré ça, tu es content d'être là?
Ah oui.
Ouais, ouais.
Ouais, bah oui. Parce que moi, je jouais, en plus, j'ai joué vite. Mm-hmm. Donc, ouais, non. Ouais, c'était. C'est sûr qu'on a eu des moments compliqués, mais on a quand même connu des succès en coupe, tout ça. Donc, ce qui nous sauvait nos saisons en général. Mais ouais, c'était des bons moments quand même.
Ouais, en plus tu rentres avec les. Je crois que c'était pas loin de quelques années après, t'as tous les jeunes qui rentrent, les Sakho,
ouais,
tout ça et tout.
Un ou deux ans après, je crois.
Ouais. Du coup, tu te sentais moins seul ou t'étais déjà un petit peu un ancien à ce moment-là?
Non, je suis ouvert, je parle avec tout le monde, donc j'étais content même. Ça a ramené une certaine. Ça fait toujours du bien d'avoir des jeunes dans un vestiaire pour ramener une certaine insouciance, ce qui manquait aussi à ce moment-là.
D'ailleurs, en parlant d'ancien, c'est une question que je me suis toujours posée. À partir de quel moment, à partir de quand on peut dire ça y est, je suis un ancien? c'est ça le truc. Moi, je le vois avec Griezmann. Je me rappelle quand il est arrivé en équipe de France, sa première Coupe du Monde en 2014. Deux ans après, pour moi, c'était de limite un ancien. Donc, je me dis, c'est à quel moment tu sens que toi, là, tu peux dire que tu es un ancien?
Ouais, je pense que c'est quand. C'est difficile à expliquer, mais je pense que c'est quand à un certain moment, tu as fait plusieurs saisons dans le même club. Ou en sélection, tu es installé depuis plusieurs années, tu peux dire que tu es un ancien. Tu es considéré comme ça. Ouais. Mais bon. Après.
Toi, tu dirais que c'était vers quand, toi, que tu es devenu un ancien, entre guillemets? Ouais. Oh.
Voilà. Hein. Là, au Red Star, ouais. Tu es un ancien, ouais, parce que tu as beaucoup de jeunes, donc tu peux dire que tu es un ancien. Mais après, tu as plus ce truc-là que tu avais avant où on respectait beaucoup les anciens. Tout ça, c'est plus comme ça maintenant.
Ah, tu trouves?
Ouais. Comme ça maintenant.
Je trouve que les jeunes, ils sont.
Ouais,
ils...
parce que la mentalité du foot, elle a changé.
Ouais.
Du business maintenant. Maintenant, à 18-19 ans, tu peux être vendu 50 millions. Tu as autant d'importance qu'un mec qui est là depuis 10 ans dans le vestiaire.
Effectivement. C'est-à-dire que maintenant, on accorde. En fait, là, c'est plus le talent, en fait, la valeur marchande qui définit un peu l'importance du joueur.
Ouais, maintenant, ouais, ça a changé. Ouais.
Toi, tu penses que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour le football?
Ça, c'est bon et c'est mauvais côté.
Ouais.
Je pense que c'est toujours important d'écouter un ancien qui a une certaine expérience qui peut te faire progresser. Et après, maintenant, les mauvais côtés, c'est que les joueurs maintenant, les jeunes joueurs qui arrivent en pro, ils savent très bien que leur agent, il suffit qu'il leur dise « Ouais, j'ai tel ou tel club », le mec, il a un foot de ce qu'il va lui dire un autre. Donc, c'est ça, un peu les mauvais côtés du foot d'aujourd'hui.
Ouais, mais en plus, c'est une... La question, en plus, on peut la poser, par exemple, pour un mec comme Mbappé, tu vois, par exemple, qui est très jeune, en fait, qui est vraiment très, très jeune, mais qui vaut 180 millions d'euros. Et je me dis, est-ce qu'il se place plus du côté des cadres du vestiaire ou plus du côté des jeunes comme Thilo Kehrer, etc., etc. Je sais pas trop, tu vois, genre, c'est...
Ouais, c'est, ouais, c'est difficile, parce qu'avec la Coupe du Monde, il a un statut maintenant...
Ouais, c'est ça.
De star, hein, du PSG, pour être clair, donc... Je ne sais pas, il faudra en discuter avec lui. Mais...
Ouais, on va essayer de l'inviter, on va lui poser la question. Et du coup, au PSG, c'est un club où tu as tout connu, vraiment. Tu as connu le maintien avec ce fameux but de Diané en 2008. Tu as connu les saisons un peu de transition. Donc, il n'y a pas de maintien, mais il n'y a pas de titre, il n'y a pas de lutte pour le titre. Donc, on va dire un peu de transition, un peu dans le ventre mou. Et tu as connu la lutte pour le titre. Donc, tu as. Parce que tu as eu trois carrières dans le club.
C'est ce qui m'a fatigué.
Ouais, c'est ça, ça fatigue vraiment.
Ça fatigue, ça prend de l'énergie. Hein.
Ouais, c'est quoi le plus dur entre jouer le maintien et jouer le titre, d'un point de vue psychologique vraiment?
C'est jouer le maintien.
C'est jouer le maintien?
Jouer le maintien avec Paris, c'était vraiment dur.
Ouais.
Ouais, parce que bah, déjà, quand tu joues le titre, tu as une pression énorme des supporters. Alors là, en jouant le maintien, c'était vraiment c'était dur à vivre. Hein.
Donc.
Après, moi, j'étais jeune, j'étais insouciant. Et moi, j'avais envie de jouer, donc je calculais pas tout ça. Mais pour quand après, tu prends de l'expérience, tu sais que tu joues un maintien, c'est chaud. Hein, tu as ton contrat, ton avenir. Dans un CV, c'est pas bon de dire que tu es descendu avec Paris.
Ouais, en plus Paris c'est jamais descendu, il me semble,
Non,
c'est ça.
ouais.
Donc ça aurait été vraiment très compliqué pour
Surtout
le
avec
club.
les joueurs qu'on avait. Là.
Bah c'est ça aussi.
À l'époque, on avait une équipe, peut-être pas, allez, je vais pas, parce que tu avais Lyon qui était hors norme à ce moment-là, mais tu étais pour jouer dans les trois premières places.
Mais comment ça se fait que du coup vous vous retrouviez à jouer le maintien?
Bah, il y avait une pression énorme, et puis je pense qu'il y avait un groupe qui s'entendait pas bien à cette époque-là. Ouais. Tout le monde ne tirait pas dans le même sens, et ça fait qu'à un moment donné, tu perds des matchs et t'enchaînes la spirale négative, comme un peu Marseille en ce moment.
Oui. Là, au moment où on enregistrait l'interview, là, ils ont gagné un match la veille.
Ouais.
Je suis pas sûr que ça va durer, mais je vois exactement ce
Non,
que tu veux
mais tu
dire, ouais.
vois, parce qu'ils ont quand même des top players, mais quand tu es dans une spirale négative, ça marche pas avec le public qui suit pas. Du coup, tu joues pas libéré et ça joue dans les têtes vachement. Et après, t'as pas les résultats que tu voudrais.
Mais le truc que tu dis là, justement, les joueurs qui tiraient pas dans le même sens, je me rappelle avoir fait l'interview d'un joueur et en off, je lui disais, mais pourquoi cette équipe-là, alors que vous avez une équipe de ouf, vous n'arrivez pas dans les trois premiers? Il dit, mais parce que personne tirait dans le même sens. Il me racontait des anecdotes de joueurs qui faisaient pas les retours défensifs
Ouais.
et qui se montraient pas en championnat. Par contre, en Ligue des Champions, là, comme tu as plus d'exposition, il y en a qui veulent se montrer. Bah là, justement, ils arrivaient à faire de grandes, grandes choses. Et là, ils se montraient tous. Donc, il y avait vraiment une différence entre la Ligue des Champions et le championnat. Et un peu ce que tu as vécu avec Paris, c'est-à-dire qu'en Ligue 1, les joueurs, voilà, ils tiraient pas dans le même sens. Du coup, ça donnait pas de résultat, quoi.
Ouais, c'est exactement ça.
Ouais. Et toi, du coup, quand tu vois ça, est-ce que tu pousses un coup de gueule et
Non,
t'es...
bah moi à
Non?
l'époque, non.
Non?
Comme je t'ai dit, moi je me faisais tout petit, je jouais. Moi j'essayais de donner le maximum. Après c'est des choses que tu maîtrises pas. Hein, t'es l'entente, il suffit de rien pour que ça marche. En fait, c'est ce qu'il y a de plus dur quand tu gères un effectif. Parce que t'as quoi, 25 joueurs, t'as des pères de famille, faut gérer les égos, le caractère de chacun. C'est pas évident. Hein, c'est ça
Ouais.
qui est dur, hein, le métier d'entraîneur.
Ça te donne pas envie de devenir entraîneur, je suppose, non?
Ouais, je pense pas avoir assez de patience pour devenir entraîneur.
Et quand tu vois toutes ces saisons un peu galères que tu vas avec Paris, en plus qui est ton club de cœur, est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu te dis, mais en fait, j'ai envie de me barrer et tout, j'ai envie de voir autre chose à cette époque-là?
Bah, moi, pour être très clair, j'avais Arsenal à ce moment-là, très très vite. Et bah, moi, on m'a bloqué clairement, donc j'ai pas le choix.
Ah
Fallait
ouais?
que je reste.
Quand tu dis on t'a bloqué,
Bah, le
c'est.
président voulait pas, à l'époque, Bazin, Colonie Capitale, voulait pas que je bouge. Donc, très clairement, je devais rester.
Et toi, tu voulais quoi, toi?
Non, moi, je voulais rester. Je venais.
Alors, honnêtement, toi, tu voulais quoi vraiment? Tu voulais
Non, je
rester ou
parle
tu.
sérieux.
Ouais.
Je voulais rester. Mais après, ça aurait pu être une belle opportunité.
Bah ouais, Arsenal, ça aurait été bien. Ouais. En plus, c'est un style de jeu que tu apprécies, Arsenal?
Bah à l'époque, ouais, ça jouait. C'était à l'époque d'Arsenal qui jouait bien, quoi.
Il y avait encore. C'était quelle année? Il y avait encore Henry,
C'était
je suppose.
2007, 2008, ouais, 2007.
Ouais, je crois que c'est la dernière saison de Thierry Henry. Ouais. Et donc, ouais, non, à part ça, en fait, tu n'as jamais eu envie de te barrer. Enfin, à ce moment-là, du coup,
Non,
tu n'as jamais eu envie de te
parce que tu
barrer.
as toujours un goût d'inachevé. Tu te dis, avec Paris, c'est pas possible de jouer le maintien.
Ouais.
Enfin, ça arrive une année après.
Donc, après ça, pas eu d'autres opportunités.
Si, j'en ai eu, mais j'ai pas voulu partir. Hein.
Tu n'as jamais voulu partir. Ok.
Non.
En fait, toi, tu te voyais, pardon, rester au club, genre,
Ouais,
toute ta vie?
j'avais toujours dans un coin de ma tête d'être champion de France avec mon club formateur. Donc ça m'a empêché de partir, quoi.
Et tu l'as été. Pour toi, c'est laquelle ta meilleure saison parisienne?
C'est la saison avant que les Qataris rachètent le club
Ouais. Donc
avec
ils arrivent en
Kambouaré.
2011, 2012, ils arrivent. Non, c'est ça, 2011-2012, ils arrivent.
Ouais.
Donc ouais, pourquoi celle-là en particulier?
Bah, parce que j'étais très très régulier toute l'année, j'étais bon quoi. Donc c'est pour ça que c'est peut-être pas j'ai fait mes plus grands matchs, mais j'étais régulier toute l'année. que ce soit en Coupe d'Europe ou en championnat, j'ai enchaîné les matchs, j'ai pas eu de pépins. Enfin voilà, on a été en finale de Coupe de France, on a été en championnat, on a joué jusqu'à la fin la lutte en Ligue des Champions. Enfin, on a été régulier parce qu'on avait un effectif restreint. On tournait à pas beaucoup de joueurs, donc on avait fait une belle saison, on jouait bien en plus. Donc ouais, non, c'était une année assez cool pour moi.
Et la pire, si tu devais sortir une vraiment
personnelle,
galère. Ouais, personnelle, ouais. Pas celle du club, mais toi.
Bah, c'était la première avec Camboiré. Ah ouais. En fait, j'ai les extrêmes avec lui. J'ai eu la première où j'étais carté tout le temps. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Bon, après, ça, c'est les aléas du football. Et j'ai eu la deuxième où quoi que je fasse, c'était son poulain et jouer quoi qu'il arrive. Donc, ouais. Ouais, c'est comme ça.
Et donc, tu l'as dit un peu, 2011-2012, c'est ça. Donc, tu as les Qataris qui reprennent le club, c'est QSI. Comment toi, tu la vis en tant que supporter, pas en tant que joueur, mais en tant que supporter parisien, comment tu vis l'arrivée de ces nouveaux investisseurs?
En tant que supporter, bah, c'est une bonne nouvelle.
Ouais.
C'est une bonne nouvelle parce que le PSG devait d'être toujours dans le top 3 en France. Et on savait avec les investissements qu'ils allaient faire que le PSG allait atteindre les objectifs rapidement. Quoi.
Ouais. Et toi, en tant que joueur, est-ce que tu es là en mode ouais, « j'ai chaud un peu » ou « ça va » Non.
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 En plus, je venais de prolonger, moi, 4 ans. Donc,
en fait, ça aurait été dur de te dégager.
Non, mais t'es content, en fait. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Qataris, ils ont sauvé un peu le foot français. Hein. C'est sans... S'ils n'étaient pas là, là, ça a été compliqué. Hein.
Ah, tu penses ?
Bah, Bein, tout ça, avec les droits, du coup, les droits télé ont augmenté. Les clubs français étaient plus compétitifs. Enfin, ça a amené un certain allant positif au championnat. Et je pense qu'on peut les remercier par rapport à ça.
Ouais, ouais. Et tu en penses quoi du président de Lyon qui dit que c'est quoi le mot ? C'est en termes de sportivité, c'est-à-dire tu joues contre un État et tout, c'est pas très loyal, pas très fair-play. Je pense qu'il exagère un peu ou...
Ouais, après lui, il est dans son rôle. Hein.
Ouais.
Tu sais, quand il jouait Lyon à l'époque, quand ils écrasaient tout le monde, il disait pas grand-chose. Hein.
ça, c'est sûr. Mais c'est un truc qui revient souvent en France, c'est-à-dire que les fortes pertes de domination, ça crée un peu des...
Ça c'est vachement français. Hein.
Ouais.
On aime bien. De toute façon, il faut critiquer. Quoi. En France, on aime bien critiquer.
Enfin, c'était Lyon avant, c'est Paris maintenant, c'était Marseille aussi
quand
avant.
Quand Lyon est gagné, ils ont gagné 7 fois le titre, je m'en rappelle très bien, moi, pour avoir joué contre eux, que tout le monde en avait marre. Hein. Mais bon, après, c'est comme ça. Hein.
Alors, j'en avais marre aussi. Ouais. Mais parce que je voulais que mon club gagne, surtout pour ça. Ouais. Et quand les Qataris arrivent, donc tu as plein de grands joueurs qui arrivent, Zlatan, Beckham, Thiago Motta, Maxwell, tout ça. Et est-ce que toi, tu t'es lié d'amitié avec un de ces nouveaux joueurs qui est arrivé un peu ?
Pas d'amitié. Enfin, on s'entendait bien, mais pas d'amitié proche.
Je te dis ça parce qu'il y a l'amitié improbable entre Camara et Ibrahimovic. Elle a un peu sorti de nulle part, j'ai l'impression.
Parce que Camara, il parlait italien.
Ah, c'est ça.
Il a joué à l'Inter quand il était jeune. Du coup, quand Ibra est arrivé, ça lui a permis de parler avec lui et d'échanger.
Ah, du coup, c'est grâce à ça.
C'est comme ça qu'ils se sont rapprochés.
Toi, t'avais pas un petit point commun, je sais pas, avec un.
Non,
avec
un mec. Je m'entendais bien avec Pastore, Verratti, Lavezzi.
Ouais, ça se passait bien. L'Argentin, l'Italien.
Il n'y avait pas de clan comme tout le monde pensait à un moment donné, français d'un côté, étranger de l'autre.
Ouais, il disait qu'il y avait un clan brésilien d'un côté. T'avais les Brésiliens.
Après, je sais pas comment ça se passe maintenant, mais nous, à l'époque, il n'y avait pas ça. Hein. Enfin, des fois, il y avait plus. Après, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils sont arrivés massivement. C'est-à-dire que beaucoup de joueurs sont arrivés d'Italie. C'est obligé que quand ils arrivent dans un club français où il n'y a que des joueurs qui parlent français, ils vont se rapprocher des joueurs qui parlent italien.
Ouais.
Mais après ça, il n'y avait pas de clan où les mecs se détestaient.
Non, mais et puis au-delà de ça, je ne sais pas comment ça se passait, la politique du club. Peut-être que toi, tu sais, mais c'est que quasiment tous. Ils sont mis à apprendre le français très très rapidement. Je me rappelle de Sirigu quand il est arrivé en Ligue 1. Je crois même pas 2 mois après, il parlait un français. Je pense qu'il parlait mieux français que mon père. Tu vois, mon père, ça fait plus de 30 ans qu'il est en métropole. Tu vois, il parle pas aussi bien français, quoi.
Ouais, mais après, Sirigu, il trichait. Il était avec un téléphone qui traduisait et il répétait tout.
Ah ouais,
il a été très fort pour apprendre le français. Ouais,
ouais, mais genre maintenant, Verratti. Enfin, voilà, c'est.
Ouais, même t'avais Lucas, Marquinhos.
Lucas, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais, donc c'était
mais c'est important, je trouve, quand tu vas dans un pays, de t'intégrer, d'apprendre la langue.
C'est pas... En France, je trouve qu'on ne l'a pas souvent vu, tu vois. C'est-à-dire qu'on n'a pas souvent vu des étrangers arriver. On a souvent vu des étrangers arriver et qui ne faisaient pas l'effort de parler le français.
Tu vois au rugby, ils n'apprennent pas le français. Hein.
Ah ouais? Moi, je ne regarde pas assez le rugby, je ne peux pas te dire.
Quand tu regardes, ils ne parlent pas français.
Ouais, mais ça, je trouve ça... Et c'est vraiment un des points que je trouve très bien dans la politique de QSI. C'est-à-dire que, je ne sais pas s'ils les obligent à apprendre le français ou pas. En tout cas, une vraie volonté.
Ils leur mettent à disposition des cours et directement au centre. Donc, c'est plus facile pour les mecs d'apprendre.
Ouais.
Mais je vois, pour parler de ça, c'est que quand tu parles avec certains joueurs en Angleterre, si tu n'apprends pas l'anglais, les mecs te mettent à l'écart. Hein.
Ah ouais,
ouais.
Ah bah ouais, c'est chaud. C'est chaud, ça. Et Ibra, il parlait français ou, dans le vestiaire ou...
Ouais, pas trop.
Pas trop
ouais,
lui, par contre, j'ai l'impression...
Il avait du mal avec le français. Non, il arrivait, il comprenait. Hein.
Mm.
Il parlait un peu, mais... Je pense qu'il n'avait pas envie de se taper la honte devant les médias par rapport à son personnage. Il fallait qu'il reste en anglais. Ouais.
Ouais, il disait des insultes. Il disait juste les insultes en français, je suppose, même à l'entraînement.
Non, mais
ou les insultes en anglais ou en italien.
En anglais, ouais, ou... ouais, toutes ces langues.
Ouais. et donc, finalement, tu gagnes le titre en 2013, c'est ça?
Ouais, l'année d'après.
L'année d'après, ouais. Donc, avant, c'est
battu
par Montpellier sur le fil. Comment on est quand on gagne le titre après tant d'années passées au club, son club de cœur, son club formateur? Waouh, t'es comment à ce moment-là?
Ouais, t'es heureux, toi. Tu te rappelles tous les moments que t'as passé au centre, tous les éducateurs que t'as eus, enfin, tu penses un peu à tout.
Mm-hmm.
Puis c'est magique. Enfin, je pense, hein, tu peux demander à plein de gens d'être champion avec son club formateur où t'as tout vécu, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Ouais, donc c'était l'objectif vraiment
de
ta carrière, c'était gagner un titre de champion de France avec Paris, c'était ça?
Ouais, après t'as toujours des ambitions personnelles élevées, mais c'est vrai que c'était important pour moi de l'être. Ouais.
Mm-hmm. Et à ce moment-là, est-ce que t'as pas une espèce de décompression, de se dire j'ai atteint ce que je voulais atteindre et... Bon, en fait, il te restait quoi derrière? Est-ce que tu n'avais pas une espèce de décompression?
Ouais, inconsciemment, ouais, je l'ai eu.
Ouais.
Parce qu'après ça, Ancelotti, il part.
Mm-hmm.
Il y a Laurent Blanc qui arrive. Et je n'ai pas envie de reconnaître le truc de me battre pour jouer. Ça. Et du coup, c'est pour ça que je suis prêté à Toulouse. Parce que, peut-être que j'aurais dû rester à ce moment-là. Mais comme on a été champion, t'es là, tu te dis, bon, c'est bon, j'ai accompli ce que je devais faire. Je me suis battu cette année. Parce qu'avec Ancelotti, cette année-là, j'avais beaucoup joué. Parce que tu t'accroches, tu as envie d'atteindre tes objectifs. Et après, quand Laurent Blanc est arrivé, je n'ai pas voulu. Je n'ai pas pris la tête. Je me suis mis à l'écart tout seul. Je me suis dit que je voulais partir.
Parce que c'est quoi? C'est lui, t'as dit qu'il ne voulait pas.
Non, je n'ai pas eu cette discussion avec lui. Non, lui, il n'y avait pas de souci si je devais rester. Mais moi, j'avais prévenu le club. J'avais dit que je pensais avoir fait le tour. Ça faisait plus de 10 ans que moi, j'étais au club. Mmh. Et j'avais besoin un peu de changement. Tu sais, des fois, dans ta vie privée, tu as envie de changer un peu d'air. Donc, voilà.
C'était quoi ça? C'est un prêt sans option d'achat, c'est
ouais,
ça?
Ouais, ouais,
c'était
un prêt, ouais.
Donc, du coup, tu restes une saison à Toulouse.
Ouais.
Magnifique ville, on est d'accord?
Ouais, c'était pas mal. Ouais.
C'était pas mal, hein?
Ouais.
Bon, il n'y a pas trop de monde au stade, mais la ville
ouais,
est...
Ouais, ça, par contre, ouais.
Ouais.
Et son rugby à fond.
Ouais. Ah, ça, là-bas, c'est le rugby, c'est vrai. Ouais. Quand tu vas vers le Capitole, tu as la boutique du RC de... Non, c'est pas c'était
Stade Toulousain.
Stade Toulousain, pardon. Ouais. Et ouais, tu sens que le rugby c'est plus là-bas, mais moi j'adore. Non,
pour Marseille, toi.
Hein?
RCT, c'est Toulon.
C'est Toulon, ouais, non, mais
c'est
alors.
Marseille-Toulon.
Non, même pas, en plus, je sais pas pourquoi j'ai dit RCT, c'est le T de Toulon que j'ai confondu avec le Stade Toulousain. Ouais. Mais ouais, du coup, tu vas à Toulouse et finalement, ça t'est utile cette saison
ouais,
après
ouais, parce qu'on avait fait une bonne saison. On jouait bien au foot. Non, ça a été bien. En plus, j'ai joué. Donc ouais, non, c'était une bonne expérience. C'était ma première où je partais de Paris.
Ouais.
C'est pas évident quand tu es dans un club depuis un certain temps et tu quittes. Donc non, ouais, c'était bien passé. Il y avait Aurier, Ben Yedder, Braithwaite. On avait une bonne petite équipe et on a fait une bonne petite saison.
Ouais, finalement, après, tu reviens à Paris et tu as encore le cœur à jouer pour Paris ou...
Pas forcément, non.
Non. Là, non. Tu veux vraiment partir pour le coup?
Ouais. Ouais, et puis c'était convenu comme ça avec Laurent Blanc,
mm-hmm.
qui a été très classe avec moi, franchement. Donc, ouais, non, c'était comme ça. Elle fait le tour. Mais du coup, j'étais deux fois champion une deuxième fois parce que, du coup, comme pendant 6 mois, je n'ai pas trouvé de club.
Ouais. Bah,
ils m'ont bloqué un peu parce qu'à ce moment-là, tu as le fair play financier, donc c'était compliqué. Il fallait qu'ils rentrent de l'argent. Enfin. Et du coup, j'ai joué un peu. Et du coup, quand tu joues, t'es champion. Ouais.
T'es champion, donc t'es double champion de France.
Voilà.
Ok, ça, c'est bien sur le CV.
Ouais, c'est toujours bien.
Ouais, ouais. Et au final, qu'est-ce que tu retiens le plus de ton passage à Paris, ton club de cœur, ton club formateur, qu'est-ce que tu retiens le plus?
En termes de quoi? De résultats ou
de tout, c'est un de tout, ouais.
Ouais, c'est les rencontres humaines que tu fais, les gens que avec qui j'ai vécu tant de choses, enfin, que tu parles du garde du corps,
ouais.
Enfin, tu partages plein de moments de vie. Après, il y a des choses que tu peux pas dévoiler non plus, qui sont secrets de.
Wow.
Ouais, non, c'est compliqué. Et
bon, on en parlera en off, alors.
Ouais, tu vis des choses assez extraordinaires, quoi. Et donc. Mm. Ouais, c'est le club qui m'a marqué et puis c'est dur, c'est difficile pour moi de sortir vraiment un moment en particulier, mais après c'est sûr qu'en ayant connu d'autres clubs, c'est vraiment à Paris que j'ai vécu mes meilleurs moments.
Est-ce que tu l'as senti la transition entre le Paris d'avant et le Paris qatari? Ce que je disais, c'est que dans un bouquin d'Ancelotti, en gros, il parle de son arrivée à Paris, l'arrivée d'Ibra, en disant que quand lui et Ibra sont arrivés, ils ont vraiment fait en sorte de moderniser le club, de faire passer pour un vrai grand club. Et c'était des petits détails, c'est-à-dire que nutritionniste, les plats, enfin tout était vraiment fait pour que les joueurs soient dans des conditions optimales, même porter la valise. Voilà. Ouais. C'est un truc qui avait choqué Ibra, ça, de porter la valise.
Ah, il a écrit ça. Parce que ça, on l'a vraiment vécu, ouais.
Ouais, ouais, ouais. Donc, est-ce que tu vois vraiment la différence entre...
Ouais, bah oui, forcément. Ouais. Le fait que les Qataris aient racheté le club, que des gens comme Ancelotti et Ibrahimovic soient arrivés, ça a accéléré le développement du club fois 10, fois 100 même. C'était...
Mais toi, à l'époque, avant qu'ils arrivent, pour toi, tu avais l'impression d'être dans de grandes installations. Ah oui. Ouais, ouais.
Ah, pour nous, c'était le top. Hein.
C'était le top.
Bah, à Paris, c'était le plus gros budget après Lyon. Mmh. On était déjà dans de très, très bonnes conditions.
Ouais.
Mais c'est vrai que là, on est passé dans une autre dimension. Et puis, c'est vrai, Ibra a été important pour ça, pour accélérer, pour mettre en place manger au centre d'entraînement. Ancelotti aussi, pareil. Enfin, voilà, donc ça a été bien. Hein.
Et c'est ce qui fait c'est ce qu'il écrivait, ces petits détails-là qui font que on passe d'un bon club à un grand club. Mmh. Et tu penses que c'est à travers ces petits détails-là que Paris peut devenir champion d'Europe, tu penses?
Oui, ça c'était...
Je ne parle pas que de la bouffe, hein, mais...
Non, j'ai détails, compris. Ouais. Non, mais c'est une marche importante. Après, moi, pour être un vrai Parisien et supporter de ce club, je pense qu'à un moment donné, après, il va falloir que l'institution soit plus forte que les joueurs. Je pense pour être du même niveau qu'un Barcelone, Real Madrid, ça, c'est qu'après, à un moment donné, c'est que l'institution PSG doit être même beaucoup plus forte que les joueurs. Et aujourd'hui, je pense que c'est le contraire et c'est le petit défaut qu'il y a et qui fait que le club n'arrive pas à passer ce cap-là. Là.
Ouais, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le club a tout ce qu'il faut, toutes les cartes en main pour être parmi les 4-5 meilleures équipes d'Europe, c'est-à-dire faire quart de finale, demi-finale, minimum tous les ans, mais il manque ce petit truc et c'est vrai que dans la gestion des joueurs parfois on a l'impression que ça pêche un peu. Je te dis ça en tant que supporter marseillais, ouais. mais aussi en tant que amateur de foot, vraiment c'était, enfin moi il y a des saisons pour moi Paris, enfin en 2016 pour moi Paris allait en demi-finale clairement, bon il y a le 3-5-2, on peut dire que c'est ça ou pas ça, mais bon bref, t'as le 4-0 et le 6-1 contre Barcelone, alors que moi j'étais persuadé que ça y est c'était les quarts minimum. En fait, c'est plein de petits trucs comme ça qui font que, en finale, ils n'y arrivent pas. Mais tu penses que, en réglant ce petit détail-là, Paris, ça passera vraiment dans la cour des très grands?
Je pense, ouais. Ils sont déjà dans la cour des très grands, mais comme tu disais, pour être régulier à ce niveau-là, ouais, c'est ces détails-là qui font la différence.
Et tu fais quoi s'ils gagnent la Ligue des Champions?
Je vais faire la fête avec eux. Hein.
Ouais. Tu vas sur les champs?
Ouais, je pense qu'il n'ira pas sur les champs, mais...
Non, mais toi, les supporters vont aller sur les champs, c'est sûr.
Non, moi, je ne vais pas sur les champs.
Non, c'est pas ton truc.
Non.
Et tu penses, c'est quoi le plus fort, tu penses, entre gagner une Coupe du Monde, enfin, en tant que supporter de l'équipe de France et du PSG, c'est quoi le plus fort entre gagner une Coupe du Monde et gagner une Ligue des Champions?
Ah, je pense que c'est gagner une Coupe du Monde, quoi.
Ça va?
Ah, je pense quand même.
Ah ouais, moi j'aurais dit l'inverse.
Ouais, mais ça dépend. Après, tu sais, c'est toujours pareil. T'as la patrie dans le cœur. C'est le pays de tes parents. Hein. C'est un truc ex- exceptionnel, la Coupe du Monde. C'est des trucs tous les 4 ans. C'est...
Ouais, mais t'as plein de supporters qui vont te dire...
Oui, mais parce que les supporters, ils ont leur club dans le cœur.
Ouais, c'est ça.
Et aujourd'hui, tu regardes les joueurs du PSG, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont le PSG dans le cœur, on va dire.
Ouais, mais là, on ne parle pas des joueurs, on parle du coup des supporters que t'es, que moi, je peux être pour le même.
C'est sûr que je serais heureux.
Mm-hmm. Parce que moi, je pense, entre Marseille gagner la Ligue des Champions et l'équipe de France est de nouveau championne du monde, moi, je choisis Marseille tous les jours, clairement. Mm-hmm. Alors que j'adore l'équipe. Enfin, j'étais.
Ça, on a. De toute façon, avec les supporters de Marseille, on le sait, hein, ça déjà. Ils ne nous parlent que de la Coupe d'Europe qu'ils ont gagnée.
Ah, en tout cas, elle est sur le maillot, elle est sur le maillot jusque-là. Bah, après, peut-être que ce sera vous bientôt. Je ne sais pas. Je ne veux pas dire je l'espère, mais en tout cas, je pense que ça pourra arriver d'ici quelques années. Moi, je pense que ça arrivera.
En tout cas, ils ont l'effectif. Hein, c'est ce qui leur manque, c'est pas grand-chose.
Ouais. Et donc maintenant, après Paris, tu as été à Toulouse, tu as joué aussi un petit peu à Rennes. Mais là, maintenant, tu es au Red Star, donc le club de Saint-Ouen dans le 93. Pourquoi avoir fait le choix du Red Star, justement?
Parce que à Rennes, ce n'est pas très bien fini. Bon, après, on a fait une résiliation où tout le monde a été d'accord. Du coup, moi, j'ai mis le souhait de revenir en région parisienne, de m'en rapprocher de ma famille, enfin, tout ça. J'avais ma maison. Puis mon pote qui est là à côté, qui a signé là-bas. Donc, le président lui a demandé si je pouvais être intéressé. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça.
Mm-hmm. C'était important pour toi vraiment de retourner en région parisienne, là où tu as grandi, la région où tu as grandi?
Ouais, parce que en fait, j'ai connu des moments difficiles en tant que joueur et même de personne. Tu sais, quand tu te sens pas bien dans un endroit. T'es pas prêt à jouer au foot. Et où j'ai été le meilleur, c'est quand je jouais à Paris, en fait, finalement. Donc, j'avais besoin de retourner ici, de me sentir bien avec mes proches, mes amis, pour pouvoir rejouer, être libéré et retrouver un peu de plaisir, parce que c'est ce qui est quand même le plus important quand tu joues au foot.
T'as besoin d'être entouré vraiment de tes proches pour être dans les meilleures conditions
Bon, au début, pas forcément, mais au final, tu te rends compte, quand tu vis des moments un peu difficiles, t'as besoin quand même des gens... des gens proches pour pouvoir t'en sortir.
Ouais, dans ces moments difficiles, t'étais seul, c'est ça?
Ouais, quand moi je suis parti, ma femme, moi, elle travaille sur Paris, donc j'étais seul à Rennes, ouais. Donc quand ça se passe pas très bien, t'as pas grand monde à qui parler.
Hein. Ouais, et ça, tu penses que les gens qui suivent le foot en ont conscience de cet aspect-là mental chez les joueurs?
Je sais pas. Je sais que il y a les gens qui suivent vraiment le foot vont savoir ça. Enfin, le sportif de haut niveau. En général, s'il n'est pas bien dans sa tête, il ne performe pas. Donc oui, c'est un élément très important.
C'était pas la première personne à en parler. On a eu plusieurs invités ici dans Banquette qui racontaient qu'à des moments de leur vie, ils n'étaient pas bien pour diverses raisons et que ça impactait justement sur leur intégration dans un nouveau club, sur leur performance sur le terrain. Et ce n'est pas des choses dont on est forcément au courant quand on voit un match. Quand moi, par exemple, si je te vois jouer à la télé, je ne peux pas savoir que dans ta vie privée, c'est compliqué. Et on ne peut pas le savoir aussi en lisant la presse. Donc, c'est un peu compliqué. Les supporters sont très exigeants. Les commentateurs sont très exigeants. Les investisseurs sont très exigeants là-dessus.
Mais ils ont raison de l'être après.
Oui, ils ont raison. Je suis d'accord avec toi. Mais j'ai l'impression qu'on oublie trop souvent en fait, l'aspect humain des joueurs, en fait, des joueurs ou même de l'entraîneur.
Après, oui, c'est sûr qu'ils ont ils ont raison d'être exigeants. Après, un joueur a le droit d'avoir une mauvaise passe. Voilà, donc c'est sur ça que des fois, ils exagèrent un peu. Mais de toute façon, on est professionnels. On est obligés. On est payés pour être performants le week-end, le jour du match.
Carrément. Et du coup, en arrivant en Red Star, je ne sais pas si les chiffres sont exacts, tu me diras, mais tu as quasiment divisé par 10 ton salaire. C'est un vrai geste, c'est-à-dire que vraiment que tu voulais rejouer au football et vraiment rejouer près de chez toi. C'était ça.
Ouais. Après, je l'ai fait. Faut aussi être. Je vais être transparent aussi. Je l'ai fait parce que j'ai été payé. J'ai eu mon année à Rennes. On a négocié. Donc oui, après, oui, ça a été divisé par 10 si on regarde par rapport à ce que je gagnais mensuel à Rennes. Ouais. Mais après, ouais, comme je t'ai dit, le fait de revenir, ce n'était pas financier. Sinon, je ne venais pas au Red Star. J'ai eu d'autres propositions à l'étranger qui étaient beaucoup plus intéressantes, qui n'avaient rien à voir. Mais comme je t'ai dit, c'était le plaisir de revenir, d'être chez moi et de d'avoir un club avec une histoire. Donc c'était aussi important et puis aussi d'essayer de, parce qu'on savait très bien qu'on allait jouer le maintien, que ça allait être compliqué cette année, de pouvoir aider le club et voilà. Mmh.
Et qu'est-ce que tu retrouves vraiment depuis que depuis que tu es arrivé au Red Star? Est-ce que c'est un peu la simplicité? Est-ce que c'est une un foot authentique? C'est quoi que tu as retrouvé là-bas?
Moi, ce que j'aime bien, c'est la passion qui est autour de ce club. Mmh. C'est les gens, ils aiment ce club. C'est ça qui est assez. Je crois qu'on s'en rend pas bien compte. Je crois les gens, mais quand tu parles du Red Star, tout le monde connaît.
Ouais, c'est vrai.
C'est ça qui est incroyable. C'est un vieux club, mais les gens, ils sont passionnés. Et puis il y a de grandes choses à faire. C'est ça qui donne aussi envie de rester dans ce club-là. Donc voilà.
C'est vrai que pour avoir assisté à un match à Bauer la saison dernière, c'était la première fois que j'allais là-bas et j'étais vraiment frappé par la passion dans les tribunes. Ça chantait du début à la toute fin. C'est un match, en plus, le Red Star a perdu, mais ça continuait de chanter. C'était vraiment incroyable. Et j'avais pas vu, je ne pensais pas qu'à ce niveau-là, en fait, Istanbul National à l'époque, il y avait ça.
Moi, c'est ce qui m'a marqué, hein, vraiment, pour revenir à ce que tu disais, c'est que à Paris, comment j'ai commencé, c'était les Copes Auteuil, Boulogne.
Ouais, ouais.
Ils t'encouragent, tu prenais un but, sifflais direct. Mm. Mais eux, ils te supportent de la première à la dernière minute et c'est ça qui est beau.
C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, tu as retrouvé ton pote Nicolas Douchez, ça a joué du coup dans ton arrivée là-bas?
Ouais, bah forcément, c'est toujours mieux d'aller dans un club où tu connais quelqu'un. En plus, nous, on est très amis, donc voilà, donc c'était
Cool. Il t'avait dit quoi avant que tu arrives? Il t'avait briefé un peu?
Ouais, il m'a dit qu'il y avait des super installations.
Ouais. Et ça va, niveau du jeu, t'es comment là? T'es un peu épanoui?
Déjà, je n'ai pas été blessé cette année, donc ça, c'est important pour moi. Ça prouve que dans la tête, ça va. Après, j'ai juste eu des problèmes de suspension là, récemment. Donc, mais non, sinon, ça se passait bien. Après. De toute façon, il va falloir redoubler d'efforts pour essayer de maintenir le club, parce que c'est la chose la plus importante. Là.
Mmh. Et tu penses que l'objectif est atteignable?
Ouais.
Malgré le fait de ne pas jouer à Bauer, même si c'est... Je pense que ça, c'est un truc qui joue quand même...
Vachement, ouais. Le président a du mal avec ça quand on lui en parle. Mais je pense qu'il n'a pas été joueur. Et c'est quand même... quand tu sais le public que tu peux avoir, et ce que tu devrais avoir, et d'aller jouer à Beauvais, c'est une tristesse absolue.
Ouais, je comprends.
Il n'y a pas d'ambiance, même des fois sur le terrain, tu dis qu'est-ce que je fais là? Et du coup, je pense que si on était à domicile, on aurait quelques points en plus et on serait hors de la zone rouge, sans doute aujourd'hui.
Ouais. Et tes coéquipiers, comment ils sont par rapport à toi? Comment ils te voient? On parlait d'anciens tout à l'heure. Ouais. Est-ce qu'ils te voient justement comme un ancien? Est-ce qu'ils te posent des questions?
Un petit peu. Il y en a. Quand j'ai commencé, ils m'ont regardé jouer à la télé. Donc c'est marrant quand ils disent ça. Ouais, je me rappelle à Paris, ça. Donc ça c'est marrant ça.
Ouais, t'es dans quel rôle? Est-ce que tu te donnes un rôle un peu de grand frère, de...
J'ai jamais été trop comme ça parce que je suis quelqu'un d'assez réservé. Enfin, on va parler comme ça, ça va se faire naturellement, mais pour donner des conseils, je suis assez réservé, mais j'essaye de transmettre ce que j'ai connu, ce que j'ai vécu pour leur donner les meilleurs conseils possibles, voilà.
Ouais. T'as signé pour combien de temps Red Star?
Moi, j'ai signé 1+1+1.
Ok.
Non, c'était la première année. Après, savoir si on se maintenait et puis de voir après comment ça allait se passer.
Ouais.
Il n'y avait pas de pression particulière.
Et toi, tu as envie de jouer jusque quand?
Mais je t'avoue que là, je suis en mai 32. J'ai connu quelques pépins physiques, opérations de l'épaule, enfin des trucs. Je me disais que je n'allais pas continuer longtemps. Mais là, j'ai retrouvé un peu de plaisir. Je ne me blesse pas. Donc, je ne sais pas, on va peut-être continuer quelques années. Hein.
Ouais. Et t'envisages un peu la suite ou pas du tout?
Je commence à y penser, rien de concret. Mm-hmm. Mais on commence à y réfléchir tranquillement.
En tout cas, pas entraîneur, ça, tu l'as dit. Tu n'as pas la patience
pour ça. Non, je ne pense pas. Pas après, je dis ça maintenant, on ne sait jamais. Hein. Des fois, tu fais quelques rencontres.
Ouais.
Mais non, je ne pense pas. Je crois que tu es plus stressé quand tu es entraîneur que quand tu joues. Donc, moi, ce n'est pas pour moi. Ça.
Ouais, mais tu penses à dans les petites idées qui émergent dans ta tête, c'est plus dans le foot ou ça n'a absolument rien à voir?
Non, dans le foot, ouais. Pourquoi pas recruteur, c'est le recrutement. Mm-hmm. Parce que j'aime bien regarder les matchs. Mm-hmm. J'ai pour repérer les bons joueurs, j'ai l'œil.
Ouais.
Donc pourquoi pas là-dedans hein.
Bah, tiens, tu dis que tu aimes bien repérer les bons joueurs là. C'est qui les joueurs là que tu as un peu repérés dans les matchs que tu as regardés dernièrement là? Tu peux me citer quelques noms comme ça de joueurs un peu à suivre qui toi, te font
ouais, plaisir après, à voir jouer. C'est dur à te dire comme ça parce que c'est trop facile si je te dis Pépé, des trucs comme ça parce qu'ils ont explosé.
Ouais, non, tu peux.
Ouais, non, mais t'as le petit Award de Lyon. Ouais. T'as des joueurs comme ça qui sont super intéressants. T'as qui d'autre T'as celui à Monaco, qui a signé à Monaco l'arrière gauche, qui était pas mal, qui était formé à Paris, Balot Touré.
Ouais.
T'as des joueurs comme ça qui sont pas mal.
Mm-hmm. Ouais. Et tu regardes beaucoup de matchs?
Pas trop en ce moment. Mm-hmm. J'en ai regardé beaucoup. En ce moment, pas trop. C'est la période, l'hiver. Tu vois.
Ouais, il ouais, y a un peu moins de matchs, ouais.
Ouais.
Mais c'est quoi les équipes que tu aimes regarder en particulier?
Je regarde un peu de tout. Franchement, je regarde un peu de tout. Il y a un championnat que je regarde pas beaucoup, c'est l'Italie.
Mm-hmm.
Je suis moins attiré. J'aime bien l'Allemagne.
Ah, tiens, t'es une des rares personnes à dire ça. Je trouve qu'il y en a pas beaucoup. Des gens à dire que j'aime bien regarder le championnat.
Parce qu'ils regardent pas.
Bah ouais, c'est ça. Ils regardent pas forcément.
Parce que c'est super offensif, hein, l'Allemagne.
C'est hyper offensif. Enfin, même l'ambiance dans les stades, c'est toujours plein. Ça chante tout le temps. Moi, j'adore.
Ouais.
Ah ouais, c'est. Il y a des clubs en Allemagne qui te plaisent plus que d'autres.
Bah, t'as forcément le Bayern.
Forcément, mais... ouais. Même cette saison, il y a eu un peu de moins bien. Hein.
Ouais, je pense qu'ils sont, eux, quand tu parlais de transition, je pense qu'ils sont dans ce truc-là. Je pense qu'ils ont une génération où ils vont devoir changer. Mm. Bah, c'est les aléas du foot. Hein. Il y a ta Ribéry, Robben qui sont un peu plus vieux. Donc, il faut déjà préparer l'avenir.
C'est ça.
Donc, je pense qu'ils sont dans cette transition-là.
Ouais, donc le Bayern, Dortmund aussi, c'était disons, beau, qui est pas mal du tout avec Lucien Favre.
Ouais.
C'est pas mal du tout.
T'as le club où a signé Alessandro Plea, qui est pas mal. Je vais te laisser le dire.
Mönchengladbach. J'ai fait allemand première langue, tu peux me les donner, ceux-là, j'ai dit sans problème.
Qui joue bien aussi.
Ouais, qui est pas mal du tout. Ouais. Et c'est marrant, c'est un peu dommage que l'Allemagne souffre un peu d'un déficit d'image. C'est-à-dire que dans l'imaginaire un peu collectif, c'est pas un championnat qu'on cite forcément.
C'est historique, ça.
Ouais.
Parce que, parce que quand t'es à l'école, on donne une mauvaise image de l'Allemagne. On t'apprend ce qui s'est passé. Du coup, t'as été pas attiré.
C'est peut-être ça. On cite souvent la première ligue.
Ouais.
Parce que avant, c'était le Big Four. Maintenant, c'est le Big Six. Mm. Mais on cite souvent la première ligue comme le meilleur championnat du monde. Ah, tu penses pas, toi, non? Là, tu fais un peu l'amour.
Non, je suis pas fan de championnat.
Ah ouais, pourquoi?
Parce que quand tu regardes les matchs, c'est vachement physique.
Mm-hmm.
Mais... bah, techniquement, qualité de jeu, c'est pas les meilleurs. Et puis tu regardes ces dernières années, les clubs anglais, ils font rien en Ligue des Champions.
C'est vrai en plus, c'est vrai. À part
l'Espagne, c'est le championnat techniquement, c'est le meilleur, mais de loin.
Ouais, moi je suis un peu d'accord avec toi, mais ce que les gens vont répondre, c'est ah, mais il y a que deux clubs en Espagne, il y a que le Barça et le Real Madrid.
C'est pas vrai, hein. L'Atlético Madrid qui a fait combien de finales de Ligue des Champions ces dernières années?
On fait deux.
Séville qui gagne l'Europa League tout le temps.
Mm-hmm.
Enfin, c'est compétitif. Hein.
Non, après, t'as les petits clubs. Enfin, les petits clubs, t'as d'autres clubs comme l'Athletic Bilbao
qui sont toujours là.
Ouais, qui a une vraie identité de jeu. Bon, Villarreal cette année, ils sont vraiment à la peine.
Séville cette année qui est pas mal.
Qui est pas mal du tout. Et c'est un truc, tu penses qu'en France, on se voit trop plus beau que ce qu'on est? Après, on a tendance un peu à dénigrer les autres équipes qui ne sont pas des grosses équipes.
Ouais, après, on cherche toujours aussi pour pouvoir se protéger. Mais après, on a été aussi trop dur avec le championnat de France aussi. Il ne faut pas non plus dire qu'il est tout pourri, le championnat de France.
Ouais.
J'entends dire plein de gens qui disent ouais, le niveau de la Ligue 1, c'est affligeant. Ça. Mais le problème en fait, de la Ligue 1, pour moi, aujourd'hui, c'est qu'elle est devenue trop physique. Donc, c'est dur. C'est pas facile hein, de jouer en Ligue 1. Il y a plein de joueurs, des joueurs qui pensaient arriver en Ligue 1 dire ah, putain, je vais être facile, je viens de première ligue, ça va être facile ou de n'importe où. Et qui galèrent parce que c'est physique. Donc chaque week-end, il faut être à 100%, sinon tu te fais marcher dessus.
Et tu penses que c'est une mauvaise chose que ce soit trop physique?
Bah, je pense que. Bah, non, pas une mauvaise chose, mais je pense que quand tu regardes le championnat d'Espagne où ça joue, parce que quand je dis trop physique, je parle que. C'est déjà, les équipes sont bien préparées et elles pensent d'abord à bien défendre avant de bien attaquer. Et je pense que c'est le gros défaut qu'on a en France et c'est pour ça que les gens critiquent souvent notre championnat.
Ouais.
Parce que tu regardes les autres championnats, les mecs attaquent et ils s'en foutent de gagner 5-3 du moins qu'ils gagnent.
Mmh.
Nous en France, si on gagne 1-0, on est content.
Et t'en penses quoi des critiques qu'il y a eu sur Didier Deschamps cet été? C'est-à-dire que oui, on a été champion du monde. Mmh. Mais voilà, en termes de niveau de jeu, c'était pas exceptionnel. T'en penses quoi, toi, de
ça? C'est clair qu'on ne s'est pas régalé. Après, le match où on s'est fait le plus plaisir, c'est France-Argentine.
C'est vrai.
Mais au final, on est champion du monde. C'est ça que Didier Deschamps va répondre. Donc, pour gagner des titres, pourquoi pas. Après, si maintenant, il met en place quelque chose qui a un jeu plus attrayant de ça, je pense qu'il a eu raison.
Ouais. Mais à travers tout ce que tu dis, j'ai l'impression que tu es vraiment un adepte du beau football, du beau jeu, du football offensif. Je me trompe pas, c'est ça. Du coup, je suppose que les équipes comme Barcelone, même Manchester City, voire Liverpool qui joue très vite vers l'avant, c'est des trucs qui te parlent, quoi.
Même pour le téléspectateur ou le supporter, c'est mieux d'avoir des équipes comme ça. T'en fous, toi, que tu ne prends pas de but.
Ouais, de toute façon, c'est pas toi qui...
Si ton équipe gagne 4-2, 5-2, tout ça, t'es heureux, tu veux avoir du spectacle. Enfin, moi, je pense que nous, les joueurs de foot, on est payés pour faire un spectacle. Donc, je trouve ça dommage de rester hyper défensif. Après, forcément, il y a des enjeux. Si tu joues pour le maintien, c'est sûr qu'il faut avoir une bonne assise défensive pour assurer le maintien. Mais en général, quand tu es une équipe comme les équipes que tu as citées, c'est les équipes qui jouent le titre. C'est mieux de voir des équipes comme ça qui sont offensives.
J'aurais pu citer Paris aussi dans les équipes qui jouent très, 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 très bien. Du coup, ça te fait plaisir de voir un jeu comme ça.
Mais ils jouent moins bien qu'avant, hein, Paris.
Ah, tu trouves ? Quand tu dis avant, c'était quand avant ?
Avec Laurent Blanc, ça, quand il était au milieu de terrain. Quand tu avais Mota, Verratti, ça qui était au top. C'était beau à voir avec Ibra. Aujourd'hui, c'est un jeu plus direct avec Tourelle.
Toi, tu préfères plus dans la... En fait, ce que t'aimes vraiment, c'est le contrôle, la possession, quoi.
Bah, pour schématiser, le truc parfait, c'était le Barcelone de Guardiola. Quand t'avais Xavi, Iniesta, Busquets au top niveau, c'était extraordinaire à voir.
Ouais.
Puis t'avais Messi qui faisait la différence. Mais c'était magnifique.
Ok, donc ouais, ok.
T'avais un truc de possession, mais en même temps, il savait quand il fallait faire mal. Après, moi, c'est mon idéal, mais c'est difficile.
Mais c'est tout s'entend. Vraiment, je vois ce que tu veux dire. Après, c'est mon avis perso, mais j'aime bien ce football-là, comme tu dis, où voilà, on gère la possession et on fait la passe verticale qui va casser vraiment les lignes, qui va tuer l'adversaire.
Je ne te parle pas de la possession ennuyeuse ou stérile.
Pas celle de l'Espagne à la Coupe du Monde. On est d'accord. Ça, on est d'accord. Mais après, j'avoue que j'ai un petit faible aussi pour ces équipes qui vont assez vite vers l'avant. Sans balancer des longs ballons, quoi, mais vraiment très vert. Klopp à Liverpool, c'est un peu ça.
Non, mais ça, c'est beau à voir aussi.
Ouais.
Mais c'est difficile, il faut avoir les joueurs pour.
C'est vrai, il faut avoir les joueurs pour. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et pour finir un peu cette discussion, je voulais revenir sur une phrase que tu avais dite dans une interview. Tu avais dit, si j'avais travaillé un peu plus, j'aurais fait une meilleure carrière. Est-ce que tu es content de ta carrière ?
Oui. Après, je le dis souvent, ça, je ne vis pas dans le passé avec, avec des regrets. Mais c'est clair qu'à un moment donné, si j'avais plus travaillé, je pense que j'aurais été moins blessé à un moment donné. Puis ouais, je pense que j'aurais pu viser un peu plus haut. Hein.
L'équipe de France ?
J'ai été sélectionné en équipe de France, mais ouais, j'aurais pu.
Plus régulièrement ?
Peut-être. Après, tu peux pas. Alors, je dis ça. C'est parce que je ne me suis pas donné toutes les chances de mon côté. Mais après, peut-être qu'en travaillant plus, j'aurais été moins bon. Enfin, je ne sais pas. Mais je pense que non. Je pense qu'aujourd'hui, comme je t'ai dit, c'est devenu tellement dur le foot. Tu as tellement de concurrence de monde. Tu es obligé de travailler en dehors pour pouvoir être régulier. Et c'est ce qui fait la différence.
Très bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Clément ? Le maintien ?
C'est important. Je pense pour le club, c'est important d'essayer de stabiliser en Ligue 2. Donc, le maintien.
Le maintien, la santé aussi.
C'est important.
Et puis, je te souhaite tout ça et puis plein de bonnes choses pour la suite. Et je te remercie d'être venu dans Banquette nous parler de ta carrière, du PSG, du Red Star et de ta vie dans le 7-7 loin là-bas, là, en région parisienne.
Ça va, maintenant, c'est rapide.
Ça dépend où. écoute, bonne journée.
C'est gentil, merci.
À bientôt, ciao.
Ciao.
Banquette est une émission de nouvelles écoutes animée par moi-même, Abdallah Swadri, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux avec la musique de Mehari. Cet épisode est monté et mixé par Laurie Galigani et à la prise de son, Charles De Silia. Merci à Clément Chantôme d'avoir accepté notre invitation. Si vous avez aimé cet épisode, venez nous le dire sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Pensez aussi à mettre 5 étoiles à Banquette sur Apple Podcast pour nous donner de la force. Et moi, je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao !